bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir dans quelques instants Michel Flandin, bien sûr qu'on connaît bien, qui est venu souvent sur Radio Craponne, qui va nous parler de son dernier livre, Les pommes de terre à la cloche. Donc on va le retrouver dans quelques instants. Eh bien, on va retrouver tout de suite Michel Flandin. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors Michel, le livre est sorti depuis un petit moment, mais confinement oblige. On n'a pas pu en parler avant, hein, parce
oui.
qu'on ne savait pas grand-chose, puisqu'on ne pouvait pas se le procurer. On va parler de ton dernier livre, donc « Les pommes de terre à la cloche » qui font suite à l'odeur de la craie, hein, c'est ça ?
Alors il y avait
enfin, suite, non, mais c'est
oui,
ton dernier
c'est livre. Ça. Mon bouquin précédent, c'était « L'odeur de la craie ». Non, ça n'a rien à voir, si ce n'est que c'est à peu près à la même époque, dans les années 20. Hein. Voilà, ça
voilà.
commence dans les années 20.
D'accord. Alors tu me disais justement « Les pommes de terre ». Je te demandais pourquoi « Les pommes de terre à la cloche ». Eh ben, tu m'as expliqué que c'était parce que ton père...
Oui, donc Les pommes de terre à la cloche, en fait, le roman, c'est l'histoire de mon père. Il y avait très longtemps que j'avais envie de raconter sa vie, donc il a une vie assez représentative un peu de la vie à l'époque, hein, donc dans nos campagnes. Mon père, donc je raconte une tranche de vie, donc de l'année 1921 où il est né, jusqu'à après son mariage, donc 48. Voilà, donc une période qui s'est passée pour lui à Saint-Front. Et Les pommes de terre à la cloche, parce qu'il cuisinait le dimanche matin quand toute la famille était à la messe, et il préparait des pommes de terre à la cloche, donc des pommes de terre à l'étouffée, pommes de terre au four que les gens connaissent bien, et lui il avait une particularité, mais on en parlera tout à l'heure.
Ok. Donc il est né à Saint-Front, et il est arrivé quand à Saint-Pierre alors
il est arrivé pour son mariage en 48.
Ah, il s'est marié à Saint-Pierre.
Puisque
Saint-Pierre.
Voilà, avec Lucienne Fayolle qui était donc à Saint-Pierre-du-Champ. Voilà.
D'accord,
et à l'époque, ça se fait bien encore un peu, je pense. Les mariages se faisaient toujours chez l'épouse.
Ah oui, bien sûr. Hein,
voilà, avait... voilà. Donc,
oui, donc il avait connu son épouse qui était de Saint-Pierre.
Voilà, c'est
d'accord,
ça.
C'est comme ça qu'il atterrit à Saint-Pierre-du-Champ.
Et c'est comme ça que nous on est de Saint-Pierre aussi.
Et vous,
voilà.
Vous êtes tous de Saint-Pierre, toute la famille. Bon, alors on va parler de ce livre. Ah, toi, c'est vrai que tu aimes bien, hein, peut-être avant de parler du livre, t'aimes bien parler un peu de tout ce qui s'est passé dans le temps. T'as parlé de ta grand-mère déjà. Hein,
oui, avec Victorine.
Voilà, Victorine.
Alors ça, c'était un peu ancien. C'était en 2011.
Ouais. Oui, ça fait un petit
donc
peu.
Donc il y a déjà un petit peu. Donc j'avais exploré la part, on va dire, maternelle, la branche maternelle de l'arbre. Et là, je suis parti sur la branche paternelle, en fait.
Ouais.
Voilà.
Bah, c'est vrai que sur une famille, il y a toujours beaucoup à dire. Hein. Surtout que ton père, c'est vrai, a une vie un peu, enfin, spéciale, parce que il a fait beaucoup de choses. On sait qu'il était très connu puisqu'il était inséminateur.
Oui.
Hein, c'est ça. Donc il a parcouru la campagne.
Les gens le connaissaient.
Oui, voilà, c'est ça.
Il voyait passer la coccinelle ou la quatrelle.
Ouais, c'est vrai. Alors, les pommes de terre à la cloche. Alors là, tu situes ton action, disons 1940, c'est-à-dire que c'est les années début de la guerre.
Alors mon père est né donc en 1921.
Il avait 19 ans.
Donc il a vécu, je raconte son enfance,
ouais.
Donc son enfance à Saint-Front. Alors ils ont habité dans un premier temps dans le village. Après ils ont été habités dans une chaumière à Cancoul, qui est un petit village donc qui est sur la commune de Saint-Front aussi, donc bien sûr. Et alors donc c'est la particularité aussi de la vie dans les chaumières. Hein, donc il y avait dans le Mézin, il y avait pas mal de chaumières à l'époque.
Oui, attention, Saint-Front en 1900, 40 ou 1920, c'est pas Saint-Front maintenant.
Hein. Non, c'est ça. Donc
il y a un petit peu de neige, quoi.
Les hivers étaient particulièrement. Étaient froids. C'était, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Beaucoup de neige, des quantités de neige, du froid. Et puis la burle.
Un pays dur, quoi.
Avec pas mal de congères. Il fallait y être né pour y vivre. Voilà, donc je raconte cette vie. Donc famille nombreuse. Hein, mon père a eu 7 filles et un frère. Donc ils étaient 9 de famille.
D'accord.
Donc mon père, qui était assez taquin, il appelait ses sœurs les 7 péchés capitaux. Il avait affublé chacune de ses frangines d'un défaut. Hein, d'un défaut. Donc il y avait les plus agréables, la gourmandise. Il y avait les un peu plus sulfureux, la luxure. Enfin voilà, tous ceux qui ont fait du catéchisme connaissent un peu les et l'orgueil, etc. Quoi.
Et c'était lui l'aîné, non ?
Alors lui, c'était l'aîné. Oui.
Ah oui,
c'était l'aîné. Donc il s'appelait Camille, comme son père.
D'accord.
Son père s'appelait Camille aussi. Donc mon père s'appelait Camille Jean-Baptiste Antoine. Alors j'ai pas pu savoir pourquoi les autres prénoms, mais donc Camille, c'était comme son père.
D'accord. Voilà. Et alors donc, quand on est l'aîné d'une longue famille, on élève un peu ses frères et sœurs.
Oui, alors dans un premier temps, donc il est parti, lui il était interne, même s'il était dans l'école du village à l'époque, était pensionnaire, on était pensionnaire, donc il rentrait. On m'a expliqué, en fait, pour écrire le roman, j'ai rencontré pas mal d'anciens de Saint-Front qui m'ont appris plein de choses. Alors Régis Gibault, qui habite vers le lac, qui était un ancien meunier. Pierre Bosque, qui est propriétaire du lac, hein, donc qui m'a raconté aussi pas mal de choses. Marius Lost aussi, qui était un ancien garagiste, qui lui a bien connu mon oncle Pierre Flandin. J'ai rencontré aussi l'historien Robert Cortial, donc de Saint-Franc, qui connaît pas mal de choses. Voilà, et puis j'ai vu aussi Maurice Luogier, qui lui m'a fait voir la ferme, enfin ce qui reste de la chaumière de Cancoul. Alors c'est vrai que ça a été assez émouvant pour moi d'aller voir un peu ces ruines. Et j'ai découvert, parce que c'était une découverte, moi j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans et demi, donc je connaissais pas tellement sa vie, mais j'ai découvert qu'ils ont vécu dans une chaumière. Alors ça, c'était assez exceptionnel pour moi, quoi. C'est vrai que c'est... Et dans l'esprit familial, nous, on pensait toujours qu'ils avaient vécu à Montbrac. Et en fait, dans la ferme de Montbrac, ils s'y sont installés beaucoup plus tard. Voilà.
Alors, quand tu parles d'un père frappé par un drame, c'est son décès ?
Alors, c'est... Non, en fait, le grand-père s'est retrouvé grabataire. Donc, mon père avait 14 ans. Donc il avait passé son certificat d'études, et en fait, au lieu d'être loué dans des fermes comme on faisait à l'époque, hein, comme les gens se louaient à droite et à gauche pour enlever, on va dire, une bouche à nourrir, hein, souvent c'est surtout dans les familles nombreuses, et bien lui, il a tenu la ferme familiale, donc il connaissait bien le domaine. C'était presque la solution, la solution la plus simple pour tout le monde. Donc il a tenu la ferme. Il a tenu la ferme jusqu'à l'époque, jusqu'à ce qu'arrive la guerre.
Voilà. D'accord. Oui,
d'où le titre Les pommes de terre à la cloche, puisque les dimanches matins, il faisait aussi le cuisinier. Alors on m'a raconté, donc mes tantes m'ont raconté, que évidemment il ne fallait pas louper la messe. Alors lui, il allait à la première. À la première messe, il y en avait plusieurs, il y en avait deux. Et puis après, donc, c'est lui qui préparait donc ces fameuses pommes de terre. Donc sa spécialité à lui, c'était de mettre beaucoup de laurier. Madine, de mes tantes, qui est religieuse au puits, elle adorait ces pommes de terre, qu'elle n'avait jamais mangé d'aussi bonnes.
D'accord.
Voilà.
Bon, alors dans ce roman, on va voir, parce que ton père, bon, s'est occupé de la ferme, mais après. Il est devenu inséminateur, donc
oui.
Comment ça s'est passé un petit peu, parce que c'était toujours un peu dans le métier de l'agriculture, mais
oui.
À l'époque c'était le début en plus, hein.
Oui,
on ne connaissait pas trop ça.
Non, alors donc en fait, quand il s'est marié, dans un premier temps, il avait tenu une épicerie à Saint-Pierre, donc ce qu'on appelait le casino.
Oui.
Donc si les gens qui traversent Saint-Pierre, à côté de l'ancienne poste, il y avait une maison avec un crépi vert, le vert casino, hein, voilà. Donc ils ont tenu ce commerce pendant pas mal d'années. Donc mon père faisait les tournées, et puis il y avait de la concurrence à l'époque, il y avait pas mal de commerce, et puis il y a pas mal de gens qui sont partis, et après c'est devenu compliqué de continuer à vivre de ce commerce là et donc c'est lancé en Haute-Loire l'insémination artificielle, et c'est comme ça que mon père avait suivi une formation. Et après avoir suivi la formation, donc il a été inséminateur. Donc il appartenait à la coopérative d'insémination de Coubon qui existe toujours.
Bien sûr. Hein,
voilà.
Qui a changé de nom, mais...
qui s'appelle maintenant Codelia, je crois. En fait, ça voilà, a peut-être changé encore. X-Pro. Oui, oui. X-Pro. D'accord.
Oui, ça.
D'accord.
Voilà, ça s'est tout regroupé au Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, ça n'a plus rien à voir.
Mais à l'époque.
C'est vrai que ça commençait à Coubon et c'est resté à Coubon.
Ouais.
Ils sont toujours à Coubon.
Ouais, avec. Je me ouais, souviens, moi, d'y ouais. avoir été quand j'étais, ouais. quand j'étais enfant et impressionné par ces taureaux qui étaient énormes, évidemment.
Ouais.
Évidemment.
Il ouais. a vendu la ferme. Enfin, il a arrêté la ferme, donc après.
Alors, la ferme à Saint-Pierre.
À
Saint-Front. En fait, à Saint-Front, quand il s'est marié, c'est son plus jeune frère qui a pris le relais.
D'accord.
Qui a pris le relais. Et lui, donc, il s'est établi à Saint-Pierre, à ce moment-là.
Ok.
Voilà.
Donc, c'est son histoire que tu racontes. Alors, le drame, je ne sais pas si on peut en parler ou s'il faut laisser découvrir
oui.
gens ce qui s'est passé, non ?
Ben, en fait, il est... Tu sais, en fait, ce qui s'est passé, c'est... Il s'est retrouvé, donc, il avait certainement... il devait souffrir pour se déplacer. Et puis, un jour, il s'est retrouvé paralysé. Et à l'époque... on disait, voilà, il est paralysé, mais on n'y mettait pas de nom, donc on n'a jamais bien su effectivement ce qui s'est passé. Donc il était chez lui. Il recevait du coup, ben, j'imagine qu'il a fallu le temps de digérer la nouvelle et puis trouver un peu un rythme de vie. Alors il s'est pas laissé aller, hein, donc il a décidé de se construire, enfin de se bricoler une chaise roulante. À l'époque, donc, je ne sais pas trop ce qu'il pouvait y avoir. En tout cas, lui, il a feuilleté tout un tas de magazines, Manu France et compagnie, pour voir un peu comment il pouvait faire ça. Et il avait fait son fauteuil pour pouvoir se déplacer à l'intérieur de chez lui. Alors après, je sais qu'il y a eu une période où il a été beaucoup plus paralysé. Donc, c'était un plateau, en fait, parce que je pense qu'il ne devait plus pouvoir se tenir assis. Hein, donc, il devait être allongé. Et en fait, les gens de Saint-Front allaient le voir. Je pense qu'il avait une façon une oreille hein, pour écouter les gens. Oui. Et les gens allaient lui raconter leur misère. Voilà. Donc, et donc, il était connu pour ça. Il avait toujours une radio. Il paraît qu'il y avait toujours la radio qui marchait et qu'il la faisait marcher avec un bâton. Donc, il donnait des coups de bâton de temps en temps sur le transistor parce que le transistor devait un peu s'arrêter. Voilà. Et puis les dimanches aussi, ou à la veillée, ils aimaient bien recevoir des voisins. Et de temps en temps, ça dansait. Ça dansait, c'est-à-dire qu'ils mettaient un peu de musique, ils mettaient un peu d'accordéon. Et les gens du village venaient danser. Voilà. Voilà. Donc il y avait cette vie un peu familiale qui était maintenue.
Oui, donc c'est toute cette histoire que tu nous racontes hein, dans les pommes de terre à la cloche. Ouais, c'est vrai que c'est une vie un petit peu particulière, se retrouver paralysé comme ça.
Oui, oui, c'était.
À quel âge ?
Ben donc il avait 20 ans de plus que mon père, donc il devait avoir, on va dire, une quarantaine à peine, je
d'accord.
dirais. Ouais, donc il était quand même jeune. Il était dans la force de l'âge en fait hein, quand
ouais,
ça
d'accord.
lui arrivait. Quand ça lui arrivait, donc c'était rude quoi. Je raconte aussi, en fait, c'est l'occasion aussi de raconter pas mal d'anecdotes sur Saint-Front. Hein, Saint-Front qui a été un village où il s'est passé pas mal d'événements, enfin un village qui était même un gros village, puisque quand l'histoire commence, il y avait plus de 2000 habitants. Recensement de 2015, ils étaient à 400, donc là, ils sont peut-être à, je sais pas, ils sont peut-être à 500. En fait, ça doit être à peu près, sauf en été, quoi. Bien sûr,
ouais.
En été, il y a beaucoup plus de monde. Mais donc, c'est devenu un village un peu similaire à Saint-Pierre-du-Champ, hein, Saint-Pierre qui est autour de 500 habitants. Mais donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, ça faisait quand même 4 fois plus d'habitants, hein, donc, avec tout un tas de commerces dans le village.
Bah oui, c'était...
Voilà, alors donc, pas mal d'anecdotes avec un curé de Saint-Front qui avait été assommé par une cloche qui était tombée. Donc ça résonne un peu pour les gens de Saint-Pierre, parce qu'à Saint-Pierre aussi, il y a eu plus récemment une cloche qui était tombée du clocher. Alors disons qu'il y a moins eu de dégâts que à Saint-Front, puisqu'à Saint-Front, elle est tombée sur un curé qui, raconte-t-on, était sorti accueillir des jeunes mariés et
d'accord.
qui a été tué net. Voilà. Donc il y a ça. Il y a eu aussi une troupe de paroissiens qui sont partis avec un curé de l'époque au Canada. Ça, c'était dans les années 1900, qui ont été s'installés dans un village qu'ils ont construit qui s'appelait Notre-Dame-de-Lourdes, mais qui était situé donc au pays des Iroquois, dans un coin qui était très apparemment très, très, très difficile. Enfin, les conditions de vie étaient pénibles. Donc, ils ont émigré, ils sont partis dans une région plus hospitalière et ils ont créé donc une cité qui existe toujours qui s'appelle Saint-Front du Canada. Donc,
ah
c'est
bon,
marrant. Donc,
il y a
un Saint-Front au Canada.
On apprend tous les jours.
Voilà. Voilà, voilà.
Ah, c'est vrai que Saint-Front, bon, maintenant, c'est devenu assez touristique, hein, parce qu'il y a ce lac déjà.
Il y a le lac.
Oui, ouais, c'est vrai.
Oui.
Et puis je crois, alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui a résisté, qui est soit un gîte, soit un restaurant, je ne me rappelle plus. Mais...
Il y a les chaumières de Bigorre.
Oui, voilà.
Il y a le côté Bigorre, donc ce que a bien raconté Bernard, donc Bernard Lost, oui, qui est Saint-Frontin lui aussi, hein, qui a raconté les mailles de la rancune,
voilà.
Donc qui se passe justement à Saint-Front, donc
à Bigorre,
voilà, c'est ça, à Bigorre, ouais. Oui. Donc c'est un joli village où il y a encore donc des chaumières, donc des toits de chaume. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'aller s'y promener. On y accède à pied.
C'est un peu
comme Moudère, mais c'est vraiment un village.
Ouais.
Et puis il y a un éperon rocheux, un peu pour ceux qui connaissent Saint-Pierre à Malivernat. Là, ça met un caractère un peu plus austère, volcanique aussi. Hein, donc c'est vrai que c'est un joli village. Voilà, donc Saint-Front, donc je parlais donc des chaumières, c'est aussi assez caractéristique. Quand tu parlais le côté touristique de Saint-Front, je pense aussi que c'est ces chaumières,
hein,
le lac, les chaumières. Il y avait des moulins à l'époque, donc la rivière qui passe à Saint-Front, donc part du lac, c'est la Gagne. Et le long de la Gagne, il y avait des moulins à eau, et beaucoup de gens fabriquaient leur farine pour faire le pain. Et c'était un peu comme à Failly-sur-Lignon, le long du Lignon aussi, il y avait tout un tas de fours, de moulins. Et ça résonnait un peu dans la vie de Camille, donc le grand-père, donc le père de mon père, parce qu'il était issu d'une famille lui-même de meuniers, qui était au Mont Dernier à Failly-sur-Lignon. Et quand j'ai publié mon roman, j'ai une lectrice là, qui m'a suivi depuis le début, qui m'a envoyé une photo de la meule. Donc la meule existe toujours, donc au Mont Dernier, à Failly, et on doit y aller un de ces jours avec les enfants. Alors c'est pour voir dans les ruines, donc une meule. Donc, voilà, ça résonne, je pense, dans la vie de pas mal de personnes, parce que ça évoque des souvenirs. On a tous un peu des souvenirs semblables, hein, de nos parents, de nos grands-parents, et puis il y a des gens qui sont un peu plus concernés, parce qu'ils ont habité, ils ont traversé un peu cette époque, ou des membres de leur famille. Ben, notamment Bernard Lost, en fait, il était son père était ami avec le mien, Pierre Lost. Donc c'est marrant d'évoquer un peu ces souvenirs. On parlera aussi pendant la guerre, ils ont été se cacher dans les bois, et puis ils avaient fait les chantiers de jeunesse aussi. Il y avait les chantiers de jeunesse aussi à l'époque. Il y avait les chantiers de jeunesse. Donc j'ai raconté. Donc je suis parti un peu, j'ai pris mon bâton de pèlerin, et ben, c'était une découverte que je dois à tous les gens qui m'ont raconté ça. C'est, je suis parti sur les pas de mon père. Moi, mon père, je l'ai pas connu, et ça m'a donné l'occasion de le faire revivre, de lui mettre une existence. Alors que j'avais que l'image d'une photo, finalement, hein, j'avais une photo en noir et blanc, un souvenir assez figé forcément, puisque quand il est décédé, j'avais 13 ans et demi, donc pour moi, c'était un traumatisme, on va dire, c'était la fin de l'enfance. Hein, voilà.
Bah oui, c'est compliqué quand on perd son père aussi jeune.
Voilà,
c'est ça. Et tu disais les moulins, ça c'est assez exceptionnel, parce que bon, j'avais fait une émission, bon maintenant, il est décédé malheureusement, il est certain. C'était, je crois que c'est Caro son nom, qui avait écrit un livre, d'ailleurs je dois l'avoir encore, où il recensait tous les moulins qu'il y avait sur l'Ans qui passe.
Ah oui, mais j'en ai entendu parler. Oui,
je me souviens. Et je crois qu'il y avait plus de 40, hein, c'était incroyable. Hein, il en reste très très peu, mais bon, c'est pour dire qu'à l'époque, des moulins, il y en avait. Il y en a encore un Saint-Julien-d'Ans qui est toujours là, mais c'est incroyable, on n'imagine pas. Hein.
Il y en a un qui est très joli aussi, qu'on voit quand on va entre Chamalières et Rue Tournac.
Ouais.
On le voit de la route. Il est donc il y a la grande roue à Aube, là, la grande roue. C'est vrai que c'est assez impressionnant, hein, c'est chouette.
Ben oui, c'est bien, mais c'est pour ça qu'on dit, toi, du côté de Saint-Front, c'était pareil. Hein, il y avait un peu partout, mais c'est-à-dire que les gens, il fallait qu'ils soient autonomes. Hein,
oui.
Parce que là, il n'y avait pas le boulanger à la porte. Hein, c'était pas tout à fait pareil. Hein.
Il y avait le four banal, les gens faisaient. Oui, voilà. Et puis, il y avait des boulangers aussi, quand même. Donc, je pense qu'ils devaient emmener leur farine, et puis en échange, ils récupéraient du pain, je pense. Il y avait beaucoup de troc à l'époque. On manipulait moins d'argent, on faisait des échanges, en fait.
Donc voilà, aujourd'hui, on parle avec Michel Fernand de son dernier roman, Les pommes de terre à la cloche. Alors, tu vas retracer tout cela. Donc, comme on le voit, on va découvrir un petit peu la région de Saint-Front.
Oui.
Hein, complètement. Et tu vas faire la relation avec Saint-Pierre.
Alors, la relation avec Saint-Pierre, en fait, elle se passe simplement au moment du mariage. Enfin, un petit peu avant, hein, quand ils ont commencé, comme on disait à l'époque, quand ils fréquentaient. Ouais. Donc mes parents en fait faisaient de la JAC, de la jeunesse agricole chrétienne. Donc ils se retrouvaient régulièrement au puits. Donc c'était à la Providence, hein. Donc c'était vers Saint-Laurent, pour les gens qui connaissent. Et donc c'était des lieux d'échange. Après-guerre, il y avait beaucoup de groupes de réflexion. Donc il y avait à la fois, on va dire, tout ce qui était très laïque. On va dire, il y avait des groupes, tout un tas de groupes ouvriers autour du parti communisme, etc. Tu vois. Et puis il y avait le côté religieux avec militants, avec la jeunesse, donc la JAC, avec la JOC. Donc ça, c'était ouais, pour ça, les ouvriers, ouais. tous ces mouvements qui ont transporté un peu la jeunesse. Moi, je me souviens que ma mère m'avait raconté qu'elle avait beaucoup milité pour l'eau à domicile, pour l'eau au robinet. C'était une révolution parce que ça apportait un progrès majeur pour les femmes, hein, pour pouvoir avoir l'eau. C'était un luxe. Aujourd'hui, ça fait rigoler, quoi. C'est vrai.
Ce qu'on dit, ouais, parfois. Moi, je peux dire que j'ai vu mettre l'eau dans mon village où je suis né.
Et oui.
À Luriec. L'eau. Je suis un petit peu vieux, mais
oui,
quand même. Hein.
Oui, oui.
Et on s'imagine pas. Hein.
Oui.
Et moi, plus mes grands-parents avaient un hôtel-restaurant. Donc, on allait à la fontaine. Enfin, on avait une grande roue là qu'on tournait. Chercher de l'eau. Il n'y avait pas l'eau sur l'évier. Hein.
Oui.
Alors, quand l'eau est arrivée, je peux te dire que là.
C'était. Oui.
Et ouais, mais on l'a vu pourtant. Hein. Et les gens, ils s'imaginent pas. Hein.
Les gens s'imaginent pas.
C'est comme tout. Les jeunes, ils ne veulent pas imaginer ça.
Bien sûr.
Ils disent, mais qu'est-ce que ça va.
Et l'électricité avec les poteaux en bois aussi.
Oui,
donc, chaque maison, on m'avait raconté, je crois qu'il y avait deux points lumineux et puis il y avait une prise.
Ouais, voilà.
Donc, c'est étonnant, hein, étonnant. Oui. Avec les ampoules à filament.
Et... Ouais, ça...
et puis après, le téléphone.
Ah,
téléphone,
une soixantaine enfin... d'années, hein, c'est
oui.
Évolué. Ouais.
Donc, il n'y avait pas Internet encore à cette époque-là, hein, bien sûr.
Ah, bah, le téléphone.
Ni les portables.
Non.
Quand on parlait du métier d'inséminateur de mon père, à l'époque, ouais. Il s'arrêtait dans les téléphones publics, dans ouais. Les villages.
Ouais.
Pour savoir un peu s'il y avait du travail à faire dans tel et tel village,
ouais,
parce que les gens, ben, il n'y avait, avait pas le portable.
Il y avait déjà, enfin, moi je me rappelle parce que ma grand-mère, c'était à Luriec, hein, dans la Loire, c'était le 5 à Luriec, donc c'était le 5e téléphone.
D'accord.
C'était comme ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5.
Oui.
C'était le 5e téléphone, alors c'était marrant parce que c'était le truc avec le.
Oui.
Tu tournais, tu
oui.
Disais allô pour le 5 à Luriec,
oui.
Tu veux le. C'était incroyable.
Il y avait l'opératrice qui branchait, comme on a vu, comme on voit à la télé, là, sur des images un peu anciennes.
Marrant, c'est pour ça que c'est des trucs. Ben c'est pareil, mes grands-parents, bon, ils tenaient aussi un café en plus, enfin, au restaurant. Un peu. Et les gens, ils venaient téléphoner parce qu'ils n'avaient pas le téléphone.
Oui.
Donc, elle avait une cabine. Et c'était incroyable, hein, c'est quand on pense à ça. Les gars, ils disent, mais c'est des dinosaures. Ça,
c'est des dinosaures, oui.
Ben, c'est bien de rappeler un peu cette période.
Ouais, c'est bien. Par rapport au téléphone, Pierre Bosque, donc qui est propriétaire du lac, qui tenait donc un restaurant, un hôtel-restaurant, donc me racontait qu'il était téléphone public et ouais. C'était le 3. C'était
voilà,
le 3 à Saint-Front.
C'était le troisième téléphone.
Et nous à Saint-Pierre, donc quand mes parents étaient inséminateurs, mon père était inséminateur, c'était le 14.
Ouais, voilà.
Les gens connaissaient le 14 à Saint-Pierre.
Ouais,
ils
connaissaient celui-là.
Oui.
C'est sûr qu'il
y
en avait besoin.
Voilà.
Ah ouais, c'est. Ben c'est tout ça hein, qu'on retrace à travers ces histoires parce que c'était moins facile que maintenant. Hein, c'est sûr que... Puis plus dur parce que l'insémination, il fallait dans les fermes. Quand il y avait de la neige, il fallait prendre l'appel des fois.
Par tous les temps, oui, il y avait toujours l'appel dans la voiture. Moi, je sais que j'ai gardé un peu ça. Je sais qu'en hiver, au lieu de mettre l'appel dans le garage, j'en ai toujours une dans la voiture. Alors, elle m'a personnellement jamais servi. Mais elle a eu servi, j'ai eu dépanné des gens avec ma pelle. Alors finalement, c'est pas plus mal de l'avoir. Oui, oui. Parce que s'il faut déneiger avec les mains, c'est
oui,
un peu compliqué.
Mais là, on a un petit peu moins de neige.
On en a un peu moins besoin, oui, mais bon.
Donc voilà, Michel Flandin, Les pommes de terre à la cloche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce roman ?
Évoquer peut-être la période de la guerre.
Ah oui, t'en parles.
La période de la guerre. Donc je disais, avant la guerre, mon père avait fait les chantiers de jeunesse.
Ouais.
Donc il était dans le Gard, à Saint-Pons. Donc j'ai découvert que c'était aujourd'hui dans l'Hérault, ça s'appelle Saint-Pons de Thaumière. Donc en fait c'était un service c'était un service civique, c'était pas un service militaire, un service, on va dire, un peu d'intérêt général. Les jeunes faisaient un service de 10 mois. C'était avant leurs 20 ans. Et donc, c'était du travail de déboisement, ils faisaient des chemins, des choses comme ça. Ils n'étaient donc pas militaires, ils n'étaient pas en armes et ils n'étaient pas en uniforme. Par contre, ils étaient encadrés par un officier de réserve. C'est assez curieux. Voilà. Et puis alors, quand la guerre est arrivée, donc mon père avait été soutien de famille du fait de la situation de son père. Et quand ça a été le moment de partir pour le travail, les services de travail obligatoires en Allemagne, il a été se cacher dans les bois comme d'autres gens de Saint-Pierre, voilà, de Saint-Front et de Saint-Pierre et de partout, on va dire. Et donc il y avait des bois, des côtes un peu comme les côtes d'Arzon ici à Saint-Pierre, donc les côtes de la Gagne, et c'était donc les bois de Chalindard, et c'est là que mon père s'est caché pendant quelques années. Alors on peut imaginer que ça devait être une vie qui était assez particulière, une vie un peu en autarcie. Ils allaient se ravitailler un peu dans le village, ils devaient se tenir un peu au courant des informations, peut-être ils écoutaient un peu, je sais pas, ils avaient peut-être la possibilité d'écouter un peu la radio. Alors j'évoque aussi, il y a eu des résistants qui se sont, il y avait des groupes de résistants, à Saint-Front, il y avait des résistants qui s'étaient établis notamment au lac pendant quelques temps. Mais le problème c'est qu'à l'époque il y avait, c'était difficile de connaître le vrai du faux. Il y avait du brigandage aussi, il y avait des gens qui semaient un peu la terreur, voilà. Après il y avait la milice, il y avait tout ce qui était la Gestapo, c'était compliqué, il y avait des circulations d'armes, c'était des périodes qui étaient troubles. Alors les campagnes se sont protégées déjà d'une manière alimentaire parce qu'ils avaient un peu plus de nourriture, mais je pense qu'ils devaient avoir des informations un peu contrastées, ça devait être, et puis d'avoir les jeunes qui étaient partis sans savoir où, quoi.
C'est ça. Et c'était les femmes qui faisaient le boulot. Et ouais, c'est toute une époque un peu révolue maintenant, même si actuellement la nature vient de se rappeler à nous, parce qu'avec ce qu'on est en train de vivre, c'est un peu compliqué, mais peut-être ça remet un peu les pieds sur terre, quoi.
Ça nous fait voir qu'on est moins souverain, on se croit, on est un peu, c'est des monstres au pied d'argile en fait. Il faut pas grand-chose pour tout mettre à plat.
Oui.
Et puis durablement, je pense quand même qu'on n'est peut-être pas tiré d'affaire.
Tout à fait, tout de suite. Bon, ça veut dire que ça arrive, et puis peut-être ça rappelle à certains qui se croient immortels qu'on n'est pas immortels. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien une chanson de Graham Allred, c'est de passage.
Oui.
Parce que voilà, on est de passage.
On est de passage, oui. On est un petit grain de, petit grain de sable là qui
ouais, parce que quand on parle des millions qui pousse.
Oui.
On fait 70, 80 ans sur Terre.
On fait quelques pas, on laisse quelques marques et puis on s'en va et on laisse la place à d'autres.
C'est vrai qu'on est en train de, on est en train un peu de cette planète, un peu de la rendre pas très bien, parce que bon, aujourd'hui dans les infos, je parlais des océans et du plastique. C'est devenu quelque chose, avec des océans de plastique. Ça veut dire que les gens, il faut qu'ils retrouvent un peu de civisme, je pense. On balance pas tout comme ça.
On balance pas tout. Et puis, les particuliers.
Alors, dans cette époque, il n'y avait pas trop de plastique déjà. Là.
Non, c'était. Et puis, je pense que les gens, ils fonctionnaient plus. Ils réutilisaient.
Ils étaient près de la nature.
Ils réutilisaient les choses. Je pense qu'ils devaient utiliser des caisses, les cagettes.
Ils vivaient avec la nature. C'est ce qu'on a un peu perdu, là.
Ils vivaient au rythme de la nature. Alors aussi un autre point aussi qui est assez particulier du Mézin, mais comme un peu dans tout, c'était les croyances un peu. Il y avait des feux follets. Alors les gens avaient peur un peu. Ils appelaient ça les trêves. Et les trêves et les feux follets, ça évoquait un peu tout ce qui était possession, le diable, le malin. Il y avait aussi la fameuse histoire du moulin Imperbé, dont les gens ont entendu parler. Donc un espèce de, on va dire un promeneur, un voyageur qui s'était présenté un jour chez un meunier et qui avait acheté à prix d'or le domaine de ce meunier qui avait été de le vendre. Mais ce qu'il lui avait pas dit, c'est qu'il voulait acheter tout ce qui était à l'intérieur, et à l'intérieur il y avait ses filles qui ont été possédées par le diable. Donc ça fait partie des choses, un peu des souvenirs qui ont été racontés et qui animaient les veillées à Saint-Front, et qui faisaient peur aux enfants. Je pense qu'ils devaient laisser traîner une oreille.
Et au moment les musées des croyances populaires.
Oui, voilà. Ça. Donc il y avait ça.
Et oui, il y avait plein de choses comme ça.
Et puis je pense que aussi à l'époque, la religion maintenait les gens dans le droit chemin. Donc avec un peu la force, on faisait un peu peur aux gens, je pense.
Oui, non, mais c'est sûr. Hein, donc, c'est toute l'histoire que tu racontes. Hein.
Je raconte cette histoire. Je raconte cette histoire un peu donc avec des repères dans les dates. Enfin, voilà. Mais c'est plus un roman. Ça se lit comme un roman. Ouais. Un peu comme ceux qui ont lu Victorine pourront lire. Alors, avec aussi la période de l'internat à l'école, hein, c'est pour les gens qui ont été internes, ça évoquera des choses. Moi, je me souviens d'avoir dormi dans des dortoirs qui n'étaient pas chauffés. On avait des bonnes couvertures. Et puis, le matin, quand on se levait, ben, on voyait qu'il y avait du givre sur les vitres.
Et un poêle à cire.
Et un poêle à sciure et un robinet, un espèce d'abreuvoir, on va dire, avec un tuyau, des trous dedans, et ça faisait office de lavabo collectif.
Alors moi, je ne l'ai pas connu personnellement, parce que je n'ai jamais été interne,
oui.
Mais je l'ai connu en tant que... J'étais maître d'internat pendant
oui.
2 ans,
oui.
Et là, j'ai connu à Craponne. Alors quand je vois maintenant, il y avait 80 gamins dans le dortoir. Je peux dire que l'hiver, alors le directeur me disait il faut les faire laver le matin. Hein. Alors je disais oui, on ouvrait les robinets, c'était gelé.
Oui, ouais, c'est ça. C'est
non,
ça.
Mais les gens ne se rendent pas compte. Hein. Et les gamins, la plupart, couchent habillés. Hein,
oui.
Parce
qu'ils avaient froid.
Bah, ils avaient froid.
Bien sûr, bien sûr.
Même moi, une histoire, ils avaient rapproché les lits. Il ne faut pas rapprocher les lits. Il n'y avait qu'un poêle qui chauffait. Ils disaient qu'un soir, il y en a des drones qui tombaient dessus. Ça a pris feu,
bien sûr.
Et oui, il n'y a rien eu, mais c'est pour dire qu'on imagine 4 mois maintenant. Qui sont dans des dortoirs par 4 ou par 2.
Oui, c'est ça.
On n'imagine pas, mais ça, c'est des trucs incroyables. Hein.
Et on n'est pas si vieux, pourtant. Hein.
Et on n'est pas si vieux, un petit peu, mais quand un même pas peu. Tant que ça.
Oui, oui, oui.
Non, mais c'est vrai qu'on a connu. Bon, ben, c'est des histoires, mais ça laisse des bonnes histoires, parce que je revois les jeunes là, avec qui j'étais, là, ben, ils gardent des bons souvenirs quand même, parce que c'était marrant à l'époque.
Voilà. Ben, c'était une vie collective. Alors je pense qu'elle était dure quand on était enfant, quand on était au collège. Ouais. Après, quand on était au lycée, ben, c'était plus sympa.
Pareil, ouais.
Voilà.
Ah ben, ici, oui, c'est vrai que. Et puis c'était des vieux collèges, hein. C'était pas très moderne.
Et puis il y avait des petites fuites de temps en temps. On ouvrait les fenêtres, on partait un peu.
Ouais, c'est un peu ça.
On a tous un peu des souvenirs comme ça.
Ouais, mais c'est bien finalement. C'est... Voilà.
Alors mon père a fait aussi un peu ça, donc je le raconte aussi un peu, les escapades. Voilà.
Les pommes de terre à la cloche, Michel Flandin. On a fait un petit peu le tour de ton roman là.
Oui, je pense qu'on a fait voilà. Donc,
ouais, bon, à découvrir, hein, à lire surtout, hein, puisque, comme on dit, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Hein,
madame, oui, oui.
Et puis également, alors, on va dire que tu as quelques dédicaces là. Alors, le 24 juin, tu seras à la FNAC au Puy.
Au Puy, oui.
De 10h à 12h30, j'ai vu que tu serais à Craponne. Au plaisir des mots, chez nos amis Viviane et Marie-Pierre, le samedi 4 juillet de 9h à 12h, et puis à Boisset, le samedi 25 juillet de 14h à 18h, si tout se passe bien.
Oui, pour une fête qui est organisée à la chapelle, une fête qui est très sympathique, à laquelle j'avais eu l'occasion de participer. Donc, le village réunit différentes formes d'art avec...
toutes les années,
voilà.
Et à Saint-Front, non?
Saint-Front, j'aurai l'occasion d'y aller, mais j'attends peut-être d'avoir une invitation, voir un peu. Moi, c'est vrai que je ne suis pas de Saint-Front, donc.
Oui, mais enfin bon, si tu parles de Saint-Front.
Oui, voilà, j'aurai bien l'occasion, sans doute. Ouais. J'avais eu l'occasion de le présenter à Saint-Pierre déjà, c'était juste avant le confinement, à la mairie. C'était sympa, j'avais fait un petit diaporama et puis on avait pu parler avec les anciens de Saint-Pierre. C'était un bon petit moment.
Donc les éditions, c'est du Maupassant.
Les éditions du Maupassant, comme le livre précédent, donc l'odeur de la craie. Oui, donc les éditions du Maupassant qui sont à Villeurbanne, qu'on trouve sur Internet aussi. Ouais. Et puis moi-même, donc les sentiers de l'écume, qu'on trouve aussi sur Internet.
Et ta femme écrit toujours des livres ?
Ma femme est toujours en train d'écrire. Oui. Elle est sur un projet aussi. Voilà, donc on a un peu tous les deux notre plume, et puis le confinement nous a permis
d'écrire un peu,
de chatouiller un peu la plume, oui. Oui,
alors,
oui.
Tu dois en avoir un qui est en préparation.
Alors j'en ai un qui est fini.
Ah, t'es fini déjà.
Alors je suis en train de le relire parce qu'il y a tout un travail après un peu de mise en forme.
Ouais.
Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose autour des prénoms, donc voilà.
D'accord.
Ça sera une histoire qui se passera sur Saint-Pierre-du-Champ. Et qui se passera pour les gens qui connaissent bien Noyac. En dessous, il y a ce qu'on appelle la Pierra Plata, une pierre plate qui surplombe l'Arzon, qui est juste en face du château d'Arzon, et où, dit-on, disait notamment notre ami André Martin, qui s'est un peu documenté sur l'histoire de Saint-Pierre, dit que les couples allaient y danser.
Ah,
Donc moi j'ai imaginé une histoire donc qui traite des prénoms et qui a aussi pour théâtre cette pierre à plata. Voilà.
D'accord. Donc c'est celui qui va sortir prochainement.
Ça sera le prochain.
Par l'automne?
Oh, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. On verra parce qu'il faut, on va laisser vivre un peu les pommes de terre. La cloche, il n'a pas commencé à vivre, donc je vais m'en occuper un petit peu.
Cette année, il n'y a pas eu en
plus. On va le prendre.
Livraison est annulée.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est vrai que ça fait.
Il faut le prendre un petit peu en main, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Donc laisser un peu vivre les choses. Mais c'est peut-être pas plus mal aussi, ça laisse un peu du temps. On est toujours en train de galoper, là. Du coup, on s'est un peu posé, hein, ouais. C'est vrai. De toute façon, on n'a pas eu le choix. Donc,
hein. Eh bien, écoute, Michel, merci.
Merci Jean-Pierre.
D'être venu, hein, et puis de nous parler de ton roman. Donc.
Alors c'est vrai que j'avais grand plaisir aussi à ce qu'on en parle ensemble, et puis toi aussi, puisque nos pères se connaissaient bien et s'appréciaient bien. Hein, voilà, voilà.
Et oui. C'était une autre époque, comme on dit. Hein.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire à la radio, donc ton père était le garagiste attitré des voitures de mon père,
ouais,
donc c'est vrai
ça,
qu'il y avait toute une histoire.
Père Flandin, c'était
et oui,
chose, hein.
ouais.
Très bien. Eh bien, écoute, merci. Donc, le prochain, tu en travailles sur un autre déjà, là aussi ?
Pas encore. Je suis encore sur celui-là.
Hein,
celui-là. Je suis sur les... quelque chose autour des prénoms. Alors,
ouais.
Je sais pas. Ça sera peut-être la valse des prénoms, le bal des prénoms. Enfin,
d'accord.
Voilà.
Ouais.
Mais on verra avec l'éditeur, à ce moment-là.
Très bien. Mais écoute, Michel, merci d'avoir été avec nous.
Hein. Merci, et Jean-Pierre.
Puis, on se retrouve pour le prochain roman.
Avec plaisir.
Alors, tu vois, on va terminer avec, comme on parle de pommes de terre, avec une chanson de Johnny Hallyday qui chante, c'est le match potatoes. Voilà, donc, on va faire ça. Allez, à bientôt. Salut Michel.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
L'invité du jeudi aujourd'hui était Michel Flandin qui nous a parlé de son dernier roman Les pommes de terre à la cloche. Voilà. Donc vous le retrouverez ce jeudi, hein, bien sûr, à partir de 15h. Et puis également, vous savez que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30, puis ensuite ça sera sur notre site internet. Merci encore de notre fidélité, notre invité du jeudi, Michel Flandin, pour son dernier livre, Les pommes de terre à la cloche.